jouer avec les mots ou jouer avec les morts, il n'y a pas si loin, et peut-être jouer avec la mort. Ceux qui s'y consacrent entrent dans des catacombes. Vous qui entrez, abandonnez tout espoir. Et voir les imposteurs, les visiteurs, qui viennent juste en respirer superficiellement le parfum et retournent ensuite à leurs préoccupations. Leur voyage de dandy au milieu des territoires de ceux qui furent dévastés. On est à cette époque où on s'habille élégamment des morts. Enfin, on s'arrache leurs vêtements, leurs écrits, que l'on fait sien, pour dire, vous voyez, je lui ressemble, je suis de la même famille, je souffre des mêmes choses. Désolé, mais pour moi, avant toute chose, toute souffrance est d'abord singulière. Elle appartient intrinsèquement à celui qui l'éprouve, qui éprouve celle-là et pas une autre. Elle est forcément particulière. Il y a aussi des éléments dans lesquels on peut se reconnaître, et peut-être une histoire commune, une enfance commune, une éducation, et beaucoup d'autres choses encore, mais un peu de retenue s'impose. On n'est pas eux pour autant, même si on s'y reconnaît un peu. C'est légitime, eux aussi ont écrit pour qu'on s'y reconnaisse, mais pas au point de se draper insolemment dans leurs habits, en semblant dire ou laissant entendre « Regardez comme je lui ressemble ». D'autant qu'en général, on le fait quand ils sont morts. Ils ne sont plus là pour contester ce qu'on fait d'eux et ce qu'on dit d'eux. J'imagine un instant, j'essaye d'imaginer un instant ce que pourraient éprouver Celan, Paul Celan et Ingeborg Bachmann en voyant ce que l'on fait, quels films surtout on fait à partir de leurs lettres. Pourtant, ils se sont bien doutés un peu. Ils ont expurgé un peu leur correspondance. Des traces trop intimes, des désaccords et des bouderies, des fâcheries, nous ne saurons rien. Ils savaient ce qu'on fait des correspondances des écrivains. Comment on aime fouiller dans les poubelles, dans les corbeilles à papier. Ce qu'ils n'ont pas voulu publier de leur vivant, ces deux-là se sont méfiés. Et puis, cela leur a sans doute semblé anecdotique par rapport à leurs autres écrits, ce qu'ils ont tenu à dire à la face du monde, ce qu'ils ont publié.
Bon. J'ai repéré cette chose, par exemple, dans un des textes de Celan, il dit simplement, il y a cette image, voir le monde, enfin, je retranscris à peu près, hein, voir le monde au travers d'une larme, comme au travers d'une loupe. Mais dans une vision brouillée et forcément déformée. Et en fait, rien que dans cette image, il parle de tout son rapport à l'écriture. Une larme à demi lentille, plus aiguë, mobile, capte pour toi les images. Ensuite, il est debout, comme nous, plein de nuit. Il montre qu'il a compris. Il compte à présent. Comme nous, jusqu'à 10, pas plus loin. En haut, sans bruit, les voyageurs, vautours et étoiles. En bas, après, tout le reste, nous, au nombre de 10, le peuple de sable, le temps. Et comment non, pour nous aussi, garde une heure ici, dans la ville de sable. Et encore, va ton heure n'a pas de sœur. Tu es de retour. Une roue, lentement, tourne d'elle-même. Les rayons grimpent, grimpent sur un champ noirâtre. La nuit n'a pas besoin d'étoiles. Nulle part on ne s'inquiète de toi. Herbe écrite, séparée. Les pierres blanches, avec l'ombre des tiges. Ne lis plus, regarde, ne regarde plus, va.
C'est des éléments sur l'écriture de Celan, par exemple, parce que on est obligé de faire intervenir quelque chose pour donner un peu d'épaisseur à tout ça. Qu'a-t-il besoin d'un véritable interlocuteur ?
Ne s'adresse à personne. Il parle parce que personne ne l'écoute. Personne et personne. S'en alla un soir, alors qu'un certain nombre de choses avaient disparu.
C'est la manière pudique dont il parle. Il parle jamais de catastrophe. Il dit toujours ce qui a été. Ce qui a été. S'en alla, sous les nuages, s'en alla dans l'ombre, la sienne et l'étrangère. Un soir, le soleil, et pas seulement lui, avait disparu. Le juif s'en alla, sortit de sa petite maison et s'en alla sous les nuages, s'en alla dans l'ombre, la sienne et l'étrangère. Car le juif, tu le sais, qu'a-t-il donc qui lui appartienne en propre, qui ne soit emprunté, prêté et jamais restitué? Qu'est-ce que j'ai fait, ensemencer la nuit, comme s'il pouvait y en avoir d'autres? Le monde vers nous, avancer dans leur vide. Nous aussi, ici, dans le vide, nous nous tenons près des drapeaux, portés sur le terrain, avec la trace qui ne ment pas. C'est là qu'il écrit cette belle chose, qui est toujours aussi énigmatique, enfin, qui est très précise en même temps, cette phrase « herbe écrite, séparée, avec l'ombre des tiges ». Les voix ajustées au vent, proches du cœur, incinérées. Un peu par là dans le silence, un peu se tut, un peu s'en alla son chemin. Voilà, banni et perdu, était chez eux. Une des dernières lettres qu'elle n'envoie pas finalement, parce qu'elle a des choses très dures à dire à Paul Celan, et elle n'arrive pas à envoyer la lettre. Donc, je lis cette lettre quand même. Il y a quelques minutes, nous nous sommes parlé au téléphone. Mais je voudrais quand même essayer de répondre à ta lettre. Je ne sais pas si ce sont des malentendus qui sont apparus entre nous ou quelque chose qui demande une clarification. Je ressens les choses autrement. L'intrusion répétée du silence, parce que, bon, il y a aussi beaucoup de périodes où il n'écrit pas, où il ne répond pas, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'ambiguïtés qui naissent aussi de certains malentendus, qui naissent du fait qu'à certains moments, il est dans son état, il est dans son être à lui, dans sa bon, faut le dire, il est dans une grande souffrance, quoi, et dans ses histoires, il est très, très centré finalement sur lui-même et sur son œuvre, qu'il y a des fois, il oublie aussi l'autre. Et là, manifestement, Ingeborg, elle lui fait un peu elle lui rappelle que de ce côté-là, elle lui en fait baver, quoi. Donc, il y a quelques minutes, nous sommes parlé au téléphone, mais je voudrais quand même essayer de répondre à ta lettre. Je ne sais pas si ce sont des malentendus qui sont apparus entre nous, quelque chose qui demande une clarification. Je ressens les choses autrement. L'intrusion répétée du silence, l'absence de réactions les plus simples, quelque chose qui me laisse désembarrer, parce que je ne peux me livrer qu'à des suppositions dans lesquelles je m'égare forcément, et puis de nouveau j'ai des nouvelles de toi, comme maintenant, j'apprends à quel point tu vas mal, et je reste aussi désemparé que je le suis devant ton silence. Et je ne sais pas comment en sortir, ni comment je pourrais jamais être de nouveau vive et vivante dans mon rapport à toi. Parfois, j'en perçois aussi très clairement les raisons. Deux ou trois choses. Des événements survenus pendant cette mauvaise période l'an passé, que je ne comprends pas encore aujourd'hui, que je m'efforce d'oublier, parce que je ne veux pas admettre leur existence, parce que ces choses, je ne veux pas que tu les aies faites, dites ou écrites. Tu viens de nouveau de me faire peur en me disant au téléphone que tu devais faire amende honorable pour quelque chose. Je ne vois pas bien ce que tu entendais par là, mais je suis de nouveau anxieuse, moins parce que quelque chose pourrait de nouveau me rendre un peu amère que parce que je sens combien ça me décourage dans mon amitié, une amitié qui va au-delà de la compassion et du souhait que tout change en mieux pour toi. Ces sentiments ne me suffisent pas, et ils sont certainement aussi insuffisants pour toi. Cher Paul, ce n'est peut-être de nouveau pas le moment opportun pour te dire un certain nombre de choses qui sont dures à dire, mais il est vrai qu'il n'existe pas de moment opportun. Sinon, j'en aurais eu le courage. Je crois vraiment que ton plus grand malheur réside en toi-même. Ce qui est affligeant et qui vient de l'extérieur,
Tu n'as pas besoin de m'assurer que c'est vrai, car je le sais bien, du moins en grande partie, est certes du poison, mais ça peut être surmonté, ça doit pouvoir être surmonté. Maintenant, il ne dépend que de toi de l'affronter de façon appropriée. Tu vois bien que toutes les déclarations, chaque intervention en ta faveur, aussi pertinente puisse-t-elle avoir été, n'ont pas atténué ton malheur. À t'entendre parler, j'ai chaque fois l'impression que tout est comme il y a un an, que pour toi ne comptait pas tout ce que beaucoup de gens se sont efforcés de faire, que seul comptait le reste, ce qui est saleté, sarcasme et insanité. Tu perds aussi des amis parce que les gens sentent que ce qu'ils font compte à peine pour toi, que ne compte pas non plus l'action de te contredire, alors qu'elle leur semble nécessaire. La contradiction est facilement moins bien accueillie que l'approbation, mais elle est tout de même parfois plus utile, ne serait-ce que parce que ensuite on arrive à découvrir pour soi-même, mieux que les autres, où gît l'erreur. Mais ne nous préoccupons pas des autres. Parmi toutes les injustices et les offenses auxquelles j'ai été en butte jusqu'à ce jour, les plus graves ont toujours été celles que tu m'as infligées, toi. Aussi, parce que je ne peux pas y répondre par le mépris ou l'indifférence, parce que je ne peux pas me protéger contre elles, parce que mon sentiment pour toi reste trop fort et qu'il me laisse sans défense. Bien sûr que pour toi maintenant, il est avant tout question d'autre chose, de tes détresses. Mais pour moi, pour qu'il puisse en être question, ce qui compte avant tout, c'est notre relation, afin de pouvoir discuter du reste. Tu dis que tu ne voudrais pas nous perdre, ce que je traduis à mon usage par ne pas te perdre, vu ton rapport superficiel avec Max. Sans moi, vous n'auriez vraisemblablement jamais fait connaissance, ou alors il aurait fallu que ce soit dans d'autres conditions, plus favorables que celles créées par mon intermédiaire. Disons-le donc honnêtement, pour ne pas nous perdre l'un et l'autre, et j'en arrive à me demander qui je suis pour toi, après tant d'années, un fantasme ou une réalité qui ne correspond plus au fantasme. Car pour moi, beaucoup de choses se sont passées, et je voudrais être celle que je suis aujourd'hui. Mais me perçois-tu vraiment aujourd'hui? C'est justement ce que j'ignore et qui me désespère. Un moment après nous être vus à Wuppertal, j'ai cru à cet aujourd'hui. Je t'ai affirmé comme tu m'as affirmé dans une nouvelle vie. Dans une nouvelle vie, c'est l'impression que j'avais. Je t'ai accepté, pas seulement avec Gisèle, mais aussi avec de nouvelles émotions, de nouvelles souffrances et possibilités de bonheur pour toi après la période qui était la nôtre. Tu m'as demandé un jour ce que je pensais de la critique de Blocker. Maintenant, tu me félicites de mon nouveau livre, ou plutôt de mes nouveaux livres, et j'ignore si la critique de Blocker en fait partie, ainsi que toutes les autres critiques. Ou penses-tu qu'une phrase contre toi a plus d'importance que 30 phrases contre moi? Le penses-tu vraiment? Ou penses-tu vraiment qu'un périodique qui s'acharne contre moi, depuis qu'il existe, Forum par exemple, trouve sa justification dans le fait de daigner prendre ta défense? Mon cher, d'habitude, je ne me plains jamais de quelqu'un, ni des bassesses, mais elles me reviennent à l'esprit quand ceux qui sont capables de commettre ces bassesses se mettent subitement à se réclamer de toi. Il ne faut pas que tu te méprennes sur ce que je dis. Je peux tout surmonter grâce à mon impassibilité, ou au pire, en faisant une crise occasionnelle. Il ne me viendrait pas à l'idée de m'adresser à quelqu'un pour lui demander de l'aide, pas non plus à toi, parce que je me sens plus forte que ça. Je ne me plains pas. J'ai toujours su, sans le savoir, que le chemin que je voulais prendre, que j'ai pris, ne serait pas semé de roses. Tu dis qu'on te dégoûte de tes traductions, cher Paul. C'était peut-être la seule chose que j'ai mise un peu en doute. Je ne pense pas à tes comptes rendus. Je ne pense pas tant à tes comptes rendus qu'à leurs répercussions, mais je te crois entièrement à présent, car j'ai aussi eu à subir la méchanceté des traducteurs professionnels, dont je n'attendais pas non plus à ce qu'ils s'immiscent là-dedans. On se gausse de mes prétendues fautes,
des gens qui, ce qui ne me blesserait pas, savent moins bien l'italien que moi et d'autres qui le savent peut-être mieux. Mais en tout cas, des gens qui m'ont aidé dans ce à quoi doit ressembler un poète en allemand. Tu comprends, je te crois. Je crois tout ce que tu dis, tout. Seulement, je ne peux pas croire que les ragots, les critiques se limitent à toi, car je pourrais tout aussi bien croire qu'ils se limitent à moi. Et je pourrais te prouver, comme tu pourrais me prouver qu'il en est ainsi, ce dont je suis incapable, te le prouver complètement, parce que je jette les papiers anonymes et autres torchons, parce que je crois que je suis plus forte que ces torchons. Et je veux que tu sois plus fort que ces torchons qui ne veulent rien dire, rien du tout. Mais de toute évidence, tu ne veux pas l'admettre, que cela ne veuille rien dire. Tu veux que ce soit plus fort que toi. Tu veux te laisser enterrer dessous. C'est là ton malheur, que je considère comme plus grave que le malheur qui t'arrive. Tu veux être la victime, mais il dépend de toi de ne pas l'être. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au livre de Zonzi, à son épigraphe, qui m'a frappé. Parce qu'en le lisant, je ne pouvais pas ne pas penser à toi. Il va avoir lieu, ce malheur. C'est certain, il arrive. Il va arriver de l'extérieur, maintenant. Mais tu le cautionnes. Et le tout est de savoir si, en le cautionnant, tu l'acceptes. Mais dans ce cas, c'est ton histoire. Et ce ne sera pas la mienne. Et si tu te laisses terrasser par lui, si tu y consens. Or, tu y consens, c'est pour cela que je t'en veux. Tu consens à ton malheur, et tu lui laisses donc la voie libre. Tu veux être celui qui va en être détruit. Mais je ne peux pas approuver cela, parce que tu peux faire qu'il en soit autrement. Tu veux que ces gens soient coupables envers toi. Et cela, je ne vais pas pouvoir empêcher que tu le veuilles. Essaye donc de me comprendre pour une fois en prenant un point de vue. Je ne crois pas que le monde puisse changer. Mais nous, nous pouvons changer. Et je souhaite que tu puisses changer. C'est là ce qu'il faut jouer du levier. Ce n'est pas le balayeur des rues qui peut le faire disparaître d'un coup de balai. Mais toi, toi seul. Tu me diras que j'exige trop de toi, pour toi. Je ne le nie pas, en effet. Mais j'exige aussi trop de moi, pour moi-même. C'est pour cette raison que j'ose te le dire. On ne peut rien exiger d'autre. Je ne pourrai pas accomplir pleinement cette tâche, et tu ne pourras pas pleinement l'accomplir, mais sur la voie de cet accomplissement, beaucoup de choses deviendront caduques. Je suis souvent très amer en pensant à toi, et parfois je ne me pardonne pas de ne pas te haïr à cause de ce poème, de cette accusation d'assassinat que tu as écrite. Est-ce qu'un être que tu aimes t'a jamais assassiné, accusé d'assassinat, un innocent? Je ne te hais même pas pour autant. C'est ce qui est fou. Cependant, s'il peut y avoir quelque chose de juste et bon, alors essaye aussi de commencer par là, de me répondre, non pas une réponse orale, ni non plus par écrit, mais par des sentiments, par des actes. Je n'attends pas de réponse à cela, pas plus qu'à d'autres choses. Pas d'excuses, non, parce qu'aucune excuse n'est suffisante et que je ne pourrais pas non plus l'accepter. J'attends de toi qu'en m'aidant, tu t'aides toi-même, oui, toi-même. Je t'ai dit que tu as la partie très facile avec moi. Mais aussi vrai que ce soit, il est vrai aussi que tu vois que tu vas avoir du mal avec moi plus qu'avec quiconque. Je serai heureuse si tu viens à ma rencontre à l'hôtel du Louvre, soulagée et serein. J'oublierai tout et je serai contente que tu sois serein, que tu puisses l'être. Je pense beaucoup à Gisèle, même s'il ne m'est pas donné de pouvoir le manifester très ouvertement, encore moins devant elle. Mais je pense vraiment à elle et j'admire en elle une grandeur d'âme, une ténacité que tu n'as pas. Pardonne-moi de te le dire à présent, mais je crois que son abnégation, sa belle fierté et sa patience représentent plus pour moi que tes plaintes. Tu lui suffis dans ton malheur, mais elle ne te suffirait jamais dans un malheur. J'exige d'un homme
qu'ils se contentent de se sentir confortés par moi, mais toi, tu ne lui accordes pas cette possibilité. Quelle injustice. Et alors après, on a la lettre qu'elle envoie. Elle envoie une lettre. Et celle-là, c'est une lettre qu'elle laisse inachevée. Cette lettre, elle date de... 61. Hein, de 27 septembre, 61. Donc, elle écrit le 24 octobre 61. Mon cher Paul, tous les soirs, et là elle envoie la lettre, je crois. Tous les soirs, presque tous les soirs, j'essaye de continuer et écrire ma longue lettre. Je ne peux pas l'envoyer maintenant, parce qu'elle veut dire trop de choses. Je préférerais l'emporter à Paris et la compléter dans ce dialogue et te la faire compléter pour que se clarifie quelque chose qui ne touche que toi et moi. Les malentendus que tu supposes, je ne les vois pas. Je pensais simplement, n'ayant plus de nouvelles, que mes livres t'avaient déplu. Je ne peux pas encore pour le moment te donner une date avant le 5 ou le 7 novembre, avant la fin du travail de Max au théâtre. Il est impossible de venir et je ne peux venir que seul à Paris parce que Max est exténué et qu'il le sera encore plus après et que son retour immédiat à Rome est pour lui de tout point de vue nécessaire. J'espère vivement que tu vas mieux. Je te le souhaite vivement et je t'écrirai la semaine prochaine quand je pourrai venir. Bien des salutations à Gisèle. Ingeborg. Donc là, ça tombe bien puisque on a déjà la lettre non envoyée qu'elle n'a pas osé envoyer parce que franchement, elle sait que ça, là, ça va aller au clash quoi. Elle peut pas envoyer une lettre comme ça. Lui, il acceptera jamais. Elle le sait quoi. En fait, c'est pour ça que la lettre ne sera jamais envoyée et d'ailleurs leur relation va plus ou moins se terminer là quoi. Il lui écrira encore une fois, une dernière fois en 1967, un peu piteusement quoi. Il écrira une lettre qui essaye de renouer quoi. Et elle ne répondra pas. Voilà. Parce que, bon, elle est fatiguée, quoi, c'est clair. Quoi. Et là, c'est le problème aussi. Hein. Comme Ceylan, ont été internés psychiatriquement dans les mêmes époques, pour des raisons différentes. C'est-à-dire, Ingeborg Bachmann, après sa rupture avec Max Frisch, elle fait une crise et elle va être hospitalisée en hôpital psychiatrique plusieurs fois. Et à peu près dans les mêmes périodes que Paul Celan, pour d'autres raisons. Lui, Paul Celan, c'est parce que tout ce qu'il a subi au niveau de la critique, de plein de choses, de sa paranoïa, de plein de choses, tout ce qui lui tombe dessus, quoi, qu'il ne supporte plus, aussi la crise avec sa propre femme, avec Gisèle, ça me paraît clair, parce que à un moment, il tente de l'assassiner, enfin, il y a des tas de trucs, quoi, elle trouve refuge chez des voisins, après, elle lui demande de se laisser interner, parce qu'elle l'aime aussi, hein, elle est folle de lui, bon, c'est un truc, et donc, il va se faire hospitaliser psychiatriquement, c'est une folie, quoi, une folie. Donc, vraiment, ils ont vécu des choses. Alors, voilà ce que écrit Ingeborg Bachmann, parce qu'on ne va pas en rester à l'anecdotique, finalement, de la douleur, du machin, de ce que chacun a vécu. Bon, c'est aussi ça le problème, quoi, avec des choses. Bon, il faut en revenir aussi au texte, peut-être. Homme, monstre, Hans, nom de ces monstres, nom que je n'oublierai jamais. Je débouchais sur la clairière, les rameaux m'ouvraient un passage, l'osier m'essuyait les bras, les feuilles léchaient les poutres de ma chevelure et je tombais toujours sur quelqu'un qui s'appelait Hans. Oui, telle est ma logique, un homme qui s'appelle Hans, c'est votre nom à tous, quel que soit votre nombre, car vous ne faites qu'un. Un seul porte ce nom. Que je ne peux désapprendre. Dussé-je tous vous oublier totalement, comme je vous ai totalement aimé, longtemps après que vos baisers, votre semence auront été emportés au gré des ondes innombrables, pluie, fleuve, mer, le nom demeurera, se propageant sous l'eau, car je ne peux m'empêcher de l'invoquer Hans, Hans. Alors ensuite, ô monstre! En fait, ça s'appelle
L'adieu de la sirène Ondine, je m'en rappelais.
Et celui qu'on vient d'entendre, il date de quand? Hante.
Ben, je sais pas. Ô monstre, aux mains puissantes et inquiètes, aux ongles courts et pâles, aux ongles noirs et écaillés, manchettes blanches et pullover effrangé, complet gris, blouson de cuir brut et chemise hawaïenne. Je vais être précise, monstre, vous faire honte une fois pour toutes, car je ne reviendrai pas, plus jamais je ne répondrai à vos appels, à vos invites. Venez prendre un pot, faisons un petit voyage, accompagnez-moi au théâtre, jamais je ne reviendrai, ne redirai ni oui, ni toi, ni oui. Fini tous ces mots, et peut-être vous dirai-je pourquoi, car vos questions commencent toutes par « pourquoi ?» Pas de questions dans ma vie. J'aime l'onde, sa transparence épaisse, le vert de l'onde, et ses créatures sans langage, dont je serai bientôt moi-même, ma chevelure parmi elles, dans l'onde équitable, miroir indifférent qui m'interdit de vous voir autrement, frondière humide entre moi-même et moi-même. Je n'ai pas d'enfant de vous, parce que je suis sans question, sans exigence, sans prudence, sans dessein, sans avenir. Je n'ai jamais su comment on s'installe en une autre vie. Je n'ai jamais eu à assurer mon existence. Ce que j'ai voulu, ce ne sont ni des serments, ni des assurances, mais l'air nocturne, air riverain, air des frontières. Et j'ai repris mon souffle pour des mots nouveaux, des baisers neufs, un aveu ininterrompu. Oui, oui, livré par mes aveux, j'étais condamné à aimer. Quand je me libérais de l'amour, je retrouvais l'eau, élément où nul ne construit de nid, ne pose un toit sur des charpentes, n'être nulle part, ne demeurer nulle part, plonger, se reposer, se mouvoir sans peine, et un jour réfléchir, émerger de nouveau, franchir une lisière, le voir, lui, et dire « Hans », commencer par le début, « Bonsoir, bonsoir ». Il y a loin jusqu'à toi, loin, loin, loin jusqu'à moi aussi. Toujours refaire la même faute, celle dont on porte la marque. Que sert alors d'être lavé par toutes les eaux, eau du Danube et du Rhin, eau du Nil et du Tibre, onde transparente de l'océan Arctique, eau d'encre vers la haute mer, des marais ensorcelants, violentes les femmes, des hommes affûtent leur langue et leurs prunelles lancent des éclairs, douces les femmes, des hommes versent des larmes silencieuses qui, elles aussi, atteignent leur but, mais les hommes sont tout silence, ils caressent affectueusement les cheveux de leurs femmes et de leurs enfants, ouvrent le journal, vérifient les factures, ouvrent en grand la radio, ce qui ne les empêche pas d'entendre le bruit de la mer dans le coquillage, la fanfare du vent. Plus tard, lorsqu'il fait sombre dans les maisons, il se lève à la dérobée et entrouvre la porte, pénètre dans le couloir sur la pointe des pieds, descende dans le jardin, enfile une allée, et alors, soudain, distinctement, ils perçoivent le cri de souffrance, l'appel venu du loin, la musique fantomatique. Viens, viens, viens donc, enfin. Et alors après. Vous autres monstres avec vos femmes, n'as-tu jamais dit « c'est l'enfer » Je me demande pourquoi je reste avec elle. N'as-tu pas dit non plus « ma femme, oui, quel être merveilleux ». Oui, elle ne peut se passer de moi. Que ferait-elle sans moi? Ne l'as-tu pas dit? Et n'as-tu pas ri en ajoutant ton orgueil? Surtout, ne pas prendre tout ça au sérieux. Il ne faut rien exagérer. N'as-tu pas dit « c'est ainsi que qu'il faut que ce soit » Le reste n'existe pas. Vous autres monstres, avec vos façons de parler, vous cherchez à vous approprier les expressions toutes faites de vos femmes, pour que rien ne vous manque et que l'univers soit bien rond. Vous faites de ces femmes vos maîtresses, vos épouses, femmes d'un jour, d'un week-end, femmes à perpétuité, et vous vous laissez aller à être leur époux, se réveiller pour voir ça. Vous, avec votre jalousie, votre orgueilleuse condescendance et votre tyrannie,
Vous qui cherchez protection auprès d'elle, vous, votre argent du ménage et vos conversations au lit avant de dormir, ce goût d'avoir raison contre l'extérieur et vos étreintes pitoyablement savantes, pitoyablement distraites, voilà qui m'a étonné, que vous donniez de l'argent à vos femmes pour leurs achats, les vêtements, les vacances, comme si vous les invitiez, les payiez en quelque sorte. Voilà ce que je veux dire. Vous achetez et vous vous faites acheter. Je ne peux pas m'empêcher de rire, Hans. Hans, petits étudiants, braves travailleurs, vous prenez femme pour qu'elle lutte avec vous. On s'y met tous les deux. Chacun suit les cours de sa fac. Chacun monte en grade dans son usine. On se donne du mal. On met de l'argent de côté et on se cuirasse devant l'avenir. Oui, c'est pour ça que vous prenez femme, pour affermir l'avenir. Pour qu'elles aient des enfants, sous votre regard ému, elles vont et viennent craintives et heureuses leurs enfants dans le ventre. Ou bien non, il ne faut pas que vos femmes aient des enfants. Vous ne voulez pas être empoisonnées et de toute votre jeunesse économisée, vous foncez vers la vieillesse. Oh, se réveiller pour voir ça, vous autres, trompeurs et trompés. Mais à moi, on ne me la fait pas. À moi, non. Vous, vos muses, et vos bêtes de trait, vos compagnes cultivées et intelligentes auxquelles vous daignez accorder la parole. Il y a longtemps que mes rires ont fait tressaillir les cœurs, mes rires que vous avez parfois imités en frissonnant dans la nuit. Car vous avez toujours su que c'est risible, que c'est terrible, que vous vous suffisez et que vous n'avez jamais été d'accord. Ce n'est donc pas la peine de vous lever la nuit, de pénétrer dans le corridor, de guetter dans la cour, dans le jardin, car ce serait avouer qu'on est plus facile à séduire encore en jouant sur la douleur et que l'on a la nostalgie de la grande trahison. Jamais vous n'en avez été d'accord avec vous-même, avec vos maisons, avec tout ce qui est là, toutes les tuiles cassées, toutes les défaites, vous. Vous vous êtes réjoui en cachette, vous aimiez jouer avec des idées de fuite, de faillite, de déchéance, de solitude, tout ce qui vous aurait délivré de l'ordre établi. Vous étiez trop heureux de remuer ces pensées, et quand la brise annonçait mon arrivée, vous bondissiez, car venait l'heure de la honte, du bannissement, de la déchéance, l'heure de l'incompréhension, vous le saviez. Mon appel demain entrelacé. Enlacé de serments, de prières, assez, voici les instructions. S'abandonner, les yeux suffiront aux yeux, un feu vert suffira, le plus facile suffira, obéir à la loi et non au sentiment, obéir à la solitude, solitude où nul ne me suit. Comprends-tu bien? Ta solitude, jamais je ne la partagerai. J'ai déjà la mienne, depuis plus longtemps, pour longtemps encore. Je ne suis pas faite pour partager vos soucis, pas ces soucis-là. Comment, sans trahir ma loi, les accepterai-je? Comment croirai-je à vos dilemmes? Comment croire aussi longtemps que j'ai foi en vous, que vous valez plus que vos vains propos, vos actions pitoyables, vos folles suspicions? J'ai toujours cru que vous valiez plus, chevalier, idole à porter une âme, digne des noms royaux. Ce n'est que lorsque tu n'as plus su quoi dire sur ta vie que tu as pu dire la vérité, et voici que les ondes submergent les rives, éclos par centaines les fleuves en flair, les nénuphars furent noyés, la mer, sanglot puissant, roula, fonça, s'abattit contre le continent, tandis que la crête de ses vagues ruisselait de blanche écume. Traître! Ne trouvant d'autre issue, il vous restait à me couvrir d'infectives. Soudain, vous aperceviez en moi je ne sais quoi de suspect, onde, voile, fuite. Devant la pétrification, j'étais le danger que vous reconnaissiez à temps. Aussitôt que vous m'avez maudite, vous vous êtes repenti, vous avez battu votre culpe sur les flancs de l'église, sur les bancs de l'église, devant vos femmes, vos enfants, devant le monde. Vous avez toujours eu l'audace de me désavouer devant vos hautes instances et su raffermir ce qui vacillait en vous. C'était la sécurité. On élevait des autels pour me sacrifier. Quel goût avait mon sang? Le même que celui de la biche, que celui de la baleine. Avait-il la même saveur? Même silence? Tant mieux pour vous. À vous qu'on a beaucoup aimé, il sera beaucoup pardonné. C'est moi, son Jésus-y, qui vous ai appelé à la vie. Vous avez rêvé de moi, sœur de votre génie, et non de vos apparences. Pleureuse lors de vos noces, surgissant les pieds mouillés, et sous mon baiser, vous redoutez la mort. Vous voudriez mourir dans le chaos, en transport de passion, selon un ordre suprême, et ne le pouvez plus. Pourquoi me taire? Pourquoi ne pas vous crier mon mépris avant de m'en aller? Mais oui, je m'en vais, car je vous ai revu une fois encore. Je vous ai entendu parler ma langue, que vous ne deviez point parler avec moi. Ma mémoire est inhumaine. Trahison, bassesse, ma mémoire vous garde. Je vous ai revu au même lieu, lieu profané que j'avais connu si clair. Qu'avez-vous fait? Je n'ai pas dit un mot. Ce mot-là, il vous faudra le dire vous-même. Puisant l'eau dans mes mains, j'en ai arrosé ces champs morts afin qu'ils puissent reverdir et rayonner à nouveau. Je ne peux partir ainsi. Je vais dire du bien de vous, afin que nous ne nous quittions pas sur des mots de rupture. Vous parliez, vous cherchiez, vous vous perdiez pour finalement renoncer et vous contenter d'une demi-vérité, si bien que la lumière n'atteignait qu'une moitié du monde. Vous étiez si courageux, courageux contre les autres, lâche aussi naturellement et audacieux parfois pour ne point paraître lâche. Même l'ennui d'une dispute ne vous empêchait pas de poursuivre la discussion et de vous cramponner à votre parole, sans en tirer pour autant avantage. Vous avez discuté pour, contre la propriété, pour la non-violence et pour le réarmement, pour le nouveau et pour l'ancien, pour les fleuves et leur régulation, pour le serment et contre la promesse. Vous savez qu'en trahissant vos silences, vous agissez et vous poursuivez cependant votre action. Pourquoi ne pas admirer cela chez vous? Louons la délicatesse de vos corps maladroits. Un geste doux, un mot gentil, révèle en vous des abîmes de tendresse, plus grands infiniment que chez vos femmes. Telle est votre tendresse lorsque vous donnez votre parole, lorsque vous prêtez l'oreille à quelqu'un et le comprenez. Tout maladroit que soient vos corps, vous échappez à la pesanteur. Une tristesse, un sourire de vous sont tels que, l'espace d'un instant, vous pouvez laisser tomber tous les soupçons de vos amis. Louons vos mains, attentives à porter les objets fragiles, mais capables d'enlever des charges et d'écarter l'obstacle du chemin. Il est bon de vous voir soigner les corps des hommes et des bêtes, en chasser patiemment la douleur. Ce sont choses simples qui sortent de vos mains, mais choses bonnes qui parleront pour vous. J'aime vous voir pencher sur vos moteurs et vos machines. J'aime vous les voir construire, comprendre, expliquer jusqu'à ce que de toutes ces explications sorte un nouveau système. N'as-tu pas dit qu'il s'agissait là d'un principe, ici d'une dynamique? N'était-ce pas bel et bien dit? Jamais plus nul ne saura parler ainsi des éléments de l'univers et des astres. Nul n'a jamais parlé ainsi de la terre, de sa forme, de ses époques. Tout était si clair dans tes paroles, les cristaux, les volcans et les cendres, la glace et le feu central. Nul ne parle ainsi de l'homme, de ses conditions d'existence, de ses coutumes, de ses biens, de ses idées, des êtres humains qui peuplent cette terre, terre du passé, terre du futur. Il était bon qu'on parlât et qu'on méditât ainsi. Jamais l'enchantement qui règne sur les objets n'était aussi puissant que lorsque tu ouvrais la bouche. Et jamais paroles ne furent plus hautes. Grâce à toi, le langage put se révolter, se confondre, s'élever. Tu t'es servi des mots et des phrases. Grâce à eux, tu t'es fait comprendre. Et tu les as transformés. tu as trouvé de nouvelles expressions, et les objets qui ne pouvaient s'adapter aux mots fabriqués, ils n'existaient presque plus. Ah, nul n'a su jouer comme vous, monstre. Tous ces jeux, c'est vous qui les avez inventés. Jeux de nombres et jeux de mots, jeux de rêves et jeux d'amour. Jamais nul n'a parlé de soi-même en ces termes, presque prophétiques, meurtriers, penchés sur l'eau, en un abandon presque total. Déjà, le monde est obscur, et je ne peux mettre mon collier de coquillage. Il n'y aura pas de lisière. Toi qui es autre que les autres, je suis sous les eaux, sous les ondes, et là-haut, quelqu'un avance qui déteste les eaux et qui déteste les feuillages, quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne comprendra jamais, comme moi je n'ai jamais compris, presque réduit au silence, percevant au loin encore l'appel. Viens, une fois seulement, viens.